marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Tiens, Homer.
L'Odyssée au cinéma.
Qui est celle-là?
C'est Pénélope.
Zweite.
La seconda buona.
Motore.
Partito. Odissea 701. Ce n'est pas les dieux qui ont créé les hommes, mais les hommes qui ont créé les dieux.
Francesca, what is that?
It's a mermaid, Jerry. C'est une sirène.
Fritz, that's wonderful for you and me, but you think the public is going to understand that?
C'est de l'art, mais est-ce que le public comprendra?
Mais oui, c'est Le Mépris, le film le plus simple de Godard. Ulysse, c'est celui qui est allé le plus loin. Les dieux ont pris d'autres visages, les peuples se sont mieux armés, les hommes se sont multipliés, mais son personnage demeure dans les mémoires, immédiatement identifiable. Ainsi parlait Sylvain Tesson dans son Été avec Homer sur France Inter, encore un livre Inter. Une exposition est consacrée au Louvre-Lens, à celui ou à ceux qu'on appelle Homer, le père des poètes et des orateurs, le prince des reporters. Tous louent cette exposition, elle fait sa place à tous les arts et bien sûr au cinéma. Nous parlerons ici du Mépris de Godard, donc, et du road movie ironique des frères Cohen, et du grand réalisateur grec Angelopoulos, bien sûr. Homer, l'aide aveugle des temps anciens, c'est un scénariste disponible pour tous les rebondissements. Et dans un film, Ulysse, c'est un narrateur inépuisable.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Yorgos Archimandritis, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Alors vous êtes un pont entre la Grèce et la France, travaillant pour France Culture, pour la radio grecque. Je vais retenir quand même juste une de vos distinctions. Vous avez fait une thèse de doctorat sur le mythe d'Orphée au théâtre et au cinéma.
Oui, tout à fait. Donc, c'est pas tout à fait un hasard si je suis là aujourd'hui, non?
Donc, on va juste déplacer un petit peu vos centres d'intérêt. Mais est-ce que vous permettez qu'on revienne d'abord à votre enfance, avant de parler de votre âge adulte? C'est vous qui avez fait le choix des extraits que nous allons entendre au long de cette émission. Et vous me signaliez que le premier était tiré d'un court métrage documentaire de la regrettée Agnès Varda, est daté de...
Daté de 1982, mais qui est fait sur une photo qu'elle avait prise il y a 65 ans, jour pour jour, le 9 mai 1954.
Donc, dans ce court-métrage, elle commentait cette photo, comme d'autres. Il y a une chèvre, un homme, un enfant, on saura davantage tout à l'heure, sur l'enfant, et davantage sur l'enfant que vous avez été.
Mythologie, vous me faites rêver. Le héros absolu, c'est Ulysse. Et dans cette image où je m'obstine à voir la Méditerranée, Ulysse, c'est celui qui rêve sur le rivage, celui qui n'en finit pas de retourner à sa femme chèvre, la belle Pénélope. Ulysse, renaissant à chaque escale, une femme dans chaque île. Nausicaa qui le découvre nu parmi les roseaux, et Calypso qui le séduit, et Circé qui l'envoûte. Mais lui, le coquin, le malin, le bavard, Ulysse aux mille ruses, qui sauve ses marins en les faisant sortir de l'antre du cyclope, caché sous la toison des béliers et des chèvres, attaché par trois. Ulysse s'en va toujours, oubliant, là, des demi-déesses presque immortelles et des Ulysse juniors. Des petits Ulysse qui grandissent pendant que chantent les sirènes de la mémoire.
Et alors, c'est qui ce petit Ulysse sur la photo?
Le petit Ulysse, c'est un petit Espagnol, voisin d'Agnès Varda, à la rue Daguerre, là où il habitait. Donc, c'était le fils d'un couple de réfugiés politiques espagnols. Et son nom, ils n'ont pas pu le baptiser Ulysse parce que l'Église ne l'acceptait pas. Mais ses parents l'appelaient Ulysse parce que le père avait fait beaucoup de lectures. Elle aimait beaucoup les lectures, dit la mère du petit Ulysse.
Alors vous êtes un petit Ulysse en Grèce? Racontez votre enfance, Yorgos Archimandritis.
On l'est tous, je crois, des petits Ulysse. On a entendu tout à l'heure Agnès Varda qui parlait d'Ulysse en tant que l'homme qui part. C'est vrai que quand on parle d'Ulysse, on parle de Nostos finalement. Nostos, c'est le voyage du retour. Nous, en Grèce... On est, je ne sais pas, on a de la chance de naître sur cette terre qui a généré ces grands mythes et ces grandes épopées. Moi, je suis né en Épire, c'est le littoral de la Grèce, juste en face des îles Ioniennes, dont Ithaque. Mais je considère que on est privilégié, nous, les Grecs, en ce sens que on a la langue qui nous lie surtout à l'Odyssée et à l'Iliade et à toute cette littérature extraordinaire de la Grèce antique. Parce que on utilise les mêmes mots, vous savez, même aujourd'hui, même si la langue a évolué. Quand on a les premiers vers de l'Odyssée, « Andra mien epen mousa polytropon », on a la même sonorité, on a les mêmes lettres, on a les mêmes notions.
En fait. Vous me dites que l'Église est hostile au prénom Ulysse, mais je croyais qu'après l'indépendance retrouvée, au XIXe siècle, on avait donné beaucoup de prénoms issus de l'Iliade et de l'Odyssée. Il y a beaucoup de Grecs qui s'appelaient Agamemnon, etc.
Surtout ces dernières années, oui, tout à fait.
Et de nouveau ces dernières années.
Ah oui, bien sûr. Non, il n'y a aucun problème maintenant. On a des Aphrodites, on a des Antigones, on a des Agamemnon, oui, un peu moins. On n'a pas de Clytemnestre, on n'a pas de Médée, mais on a des Achilles, des Patrocles, des Odyssées, des Odysseas. Qui est le nom grec pour Ulysse.
Alors c'est une épopée orale que l'épopée d'Homère, et vous l'avez lu comment et quand?
Je l'ai lu pour la première fois, des fragments, bien sûr, comme tous les Grecs, à 13 ans. On étudie vraiment toute l'Odyssée à 13 ans, et l'Iliade à 14 ans, donc c'est à la 6e, 5e à peu près. Mais on a des extraits qu'on emploie et qu'on étudie à l'école, mais on baigne très très tôt dans cette littérature, dans cet univers mythologique et historique aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les épopées sont au croisement de l'histoire et de la pensée mythologique. C'est comme j'avais lu dans un livre, je me rappelle plus lequel, que c'est un peu comme l'estuaire d'un fleuve où l'eau douce est la mythologie, l'eau salée de la mer est l'histoire, et on est dans l'estuaire où l'eau douce, le mythe donc, et l'eau salée, l'histoire, sont ensemble, mais on ne sait pas à quel dosage.
Où est la aide, où est le scénariste? On va parler d'Homère scénariste cet après-midi, avec le film de Godard, déjà cité, 1963. Piccoli, c'est un scénariste de Paris. Il vient avec son épouse Camille, Brigitte Bardot, qu'on voit nue dans Le Mépris. C'est élémentaire, Le Mépris, dit Godard. C'est mon film le plus simple. Il n'y a rien que des éléments simples. Et un réalisateur, Fritz Lang, borgne, important. Quand on parle des personnages de l'Odyssée, veut réaliser donc un film sur Ulysse, mais le producteur Procoche, il a une idée très particulière du scénario.
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais?
Je regarde.
Elle n'arrête pas toute seule, viens avec nous.
De quoi vous discutez?
De l'Odyssée. Moi, je défends la théorie de Procoche. Que l'Odyssée, c'est l'histoire d'un homme qui aime sa femme et elle ne l'aime pas.
Tu penses vraiment ça? Je suis sûre que non.
Silenzio tequila! Fuori del campo!
Petit minou, vous voulez dans le champ.
Tout le monde en place?
Tutti a posto.
Alfredo, Nausicaa.
Nausicaa, e ragazzi, svelte.
Siamo noi, la camera.
Svelte, ragazzi, svelte.
Allez, vite.
Svelte, ragazzi.
Procoche n'est pas un vrai producteur, c'est un dictateur. Moi, je trouve idiot
de transformer le personnage d'Ulysse. Ce n'est pas névrosé moderne, c'était un homme simple, astucieux et hardi.
Je trouve cette idée intéressante. Ulysse met 10 ans à rentrer chez lui, parce qu'en réalité, il ne souhaite pas ce retour, c'est logique. Si Ulysse ne tient pas tellement à précipiter son retour à Ithaque, c'est parce que sa vie avec Pénélope n'est pas heureuse. Et ses difficultés datent d'avant le départ d'Ulysse, pourquoi ? S'il avait été heureux, il ne serait pas parti.
Retournement du personnage de Pénélope. Alors, elle est là, moins belle que Calypso, sur son île, pelée et modeste, Ithaque, en face de chez vous, Yangos Archimandritis. Mais enfin, on vous a toujours appris dans votre enfance que c'était la personnalité qui figurait le mieux la fidélité.
Tout à fait, et pour tout le monde d'ailleurs, Pénélope, c'est la personnification de la fidélité. Là, on est dans un film, il faut dire, qui est tiré du roman Il disprezzo, le mépris de Alberto Moravia, donc c'est une double transposition. Ce n'est pas direct, une transposition directe de l'Odyssée par Godard, donc c'est une double un double filtre, si vous voulez. Et là, on a ce qui obsède, qui fait partie des obsessions, disons, de l'auteur, qui est Alberto Moravia, qui est la désintégration de l'amour. Et on a ce couple sublime de Michel Piccoli et de Brigitte Bardot dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire.
J'allais dire dans toute sa simplicité, pour ma part.
Dans toute sa... Bien sûr, vous avez raison. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, de la simplicité, vous avez parlé de la simplicité du film, vous avez cité Godard, c'est vrai, peut-être qu'il a, parce qu'il avait beaucoup étudié, très bien étudié son sujet, Godard, comme dans tous ses films, dans Homère, on est dans la simplicité absolue, on est dans la sobriété, on est dans le très concret. On est dans le réel, et d'ailleurs Fritz Lang,
le réalisateur,
et qui est aussi un des personnages du film, dit à un autre moment dans le film que Homer, c'est l'auteur du réel, le monde d'Homer est réel. C'est pour cela d'ailleurs que c'est un monde qui nous parle à nous tous après des milliers d'années, parce que les personnages d'Homère, il faut pas oublier que ils sont dans leur sobriété, presque ils deviennent des symboles. On a parlé de Pénélope, symbole de la fidélité. Ulysse, Odysseas, c'est le symbole de la ruse, mais pas de la ruse dans le mauvais sens, de la prudence aussi, de la sagesse. On a Achille, si on parle par exemple de l'Iliade, c'est quelqu'un de fougueux, de passionné.
On a entendu la mère aussi, et pas seulement Brigitte Bardot, mais alors la mère élémentaire, la mère très simple, la mère transparente dans laquelle on voit nager les corps.
Et la mère aussi qui a été le théâtre des aventures d'Ulysse, il faut pas oublier ça, parce que la mère c'est sa patrie, il vient d'une île, mais c'est elle aussi, par Poséidon, qui lui pose tous ces obstacles qui l'empêchent d'arriver chez lui, qui empêchent ce nostos, ce voyage du retour. Et c'est là où il fait toutes ces découvertes extraordinaires et ces rencontres extraordinaires.
Les films dont on va parler ne font pas beaucoup de place aux fantastiques marins. On voit pas qu'arrive des Scylla, mais ça doit coûter trop cher. On ne voit pas les monstres. Enfin, peut-être aperçoit-on ici ou là dans un film, mais beaucoup plus dans la peinture, les sirènes. Juste un petit clin d'œil à l'exposition qui nous réunit, celle du Louvre-Lens, consacrée à Homère, et qui a une programmation musicale très riche, Lily Boulanger. Les sirènes. Thank you.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Yorgos Archimandritis nous parle d'Homère au cinéma. Et on aurait pu mettre là, à cet instant, une musique country, par exemple. Parce que le deuxième film que vous avez sélectionné est nourri, il se déroule dans les années 1930, à la sortie d'un pénitencier dont se sont échappés trois comparses. Ce film, des frères Cohen, il est nourri de la musique américaine populaire.
Tout à fait, c'est un élément central dans ce film, parce que ce ne sont pas seulement des intervalles ou des intermèdes musicaux, mais ils font partie de l'intrigue. Par exemple, il y a la chanson du film qui s'appelle Man of Constant Sorrow, qui veut dire l'homme de la douleur, de la tristesse permanente, et ça renvoie à Ulysse, parce que le nom d'Ulysse, il faut pas l'oublier. Qu'il vient, il y a plusieurs étymologies possibles, bien sûr. Il y en a deux qui sont les plus sérieuses, si vous voulez, comme possibilité. Une, c'est odysome, qui veut dire, c'est le verbe odysome, d'où le mot Odysseas, le nom Odysseas, qui signifie être en colère contre. Et la deuxième étymologie, ça vient de Odini, qui est la douleur. Donc c'est lui qui provoque la douleur aux autres, et c'est lui qui la subit. Et on est en plein dans l'Odyssée là.
On est dans un road movie puisque c'est un film américain. Les comparses s'échappent, ils sont encore enchaînés. Ils rencontrent ici un géant borgne qui n'est pas sans rappeler Polyphème, d'autant que le dialogue se passe avec en arrière-plan une statue d'Homère, ou bien il rencontre un prophète aveugle qui n'est pas sans rappeler le devin Tirésias.
Vous travaillez pour les chemins de fer, grand-père ?
Je travaille pour personne.
C'est comment votre nom ?
Je n'ai pas de nom.
C'est peut-être la raison pour laquelle vous avez eu quelques difficultés à trouver une situation, au propre sens du terme. La compétition sur le marché du travail est très...
Vous cherchez fortune, vous qui êtes à présent enchaîné. Vous trouverez fortune, même si ce n'est pas celle que vous cherchez. Mais d'abord, il vous faudra accomplir un long et difficile périple. Votre route sera semée d'embûches. Vous verrez des merveilles qui mériteront d'être comptées. Une bête à cornes, perchée sur le toit, d'un hangar à coton et tant d'autres prodigiosités. Je ne peux pas vous dire combien de temps durera votre voyage, mais que les obstacles ne vous effraient pas. Le destin vous octroiera sa récompense. La route peut serpenter, le découragement peut vous gagner. Aussi ingrat que s'avère le chemin, suivez-le jusqu'à votre salut.
Au proverbe des frères Cohen, Yorgos Archimandridis.
C'est un film que moi j'aime particulièrement parce que c'est une transposition très inventive et très créative de l'Odyssée. Au début du film, on voit les fameux vers, les premiers vers de l'Odyssée. « Ô muse, conte-moi l'aventure de l'homme aux mille tours qui pendant des années erra ». On a donc le héros principal qui est incarné par George Clooney, qui s'appelle Ulysse, et ses compagnons Pete et Delmar, qui est Delmare, celui de la mer. Donc il n'y a rien qui est laissé au hasard dans ce film. Et vous avez parlé tout à l'heure de Tirésias. Les frères Cohen ont tellement bien étudié l'univers mythologique de la Grèce qu'ils ont fait une contamination, on dirait, du personnage de Tirésias avec celui d'Homère, parce que on sait tous les deux
que tous les deux aveugle.
exactement l'aveugle, et Homeros d'ailleurs ça veut dire Homi Oron, celui qui ne voit pas, c'est une des possibles explications de son prénom grec. Et donc ils font un périple dans le sud des États-Unis, dans la période de la dépression. Et ce qui est très frappant, c'est que on a presque l'ancien monde de l'Amérique, le monde du merveilleux, parce qu'il y a aussi une mythologie du sud des États de l'Amérique, et avec la modernité. D'un côté, on a la modernité avec l'électricité qui arrive dans la ville.
Et la radio.
Et la radio, bien sûr.
Le directeur de la radio qui commande une chanson aux comparses est d'ailleurs aveugle, lui aussi.
Et qui
les paye pas beaucoup.
Qui est un des avatars d'Homère, d'ailleurs, dans le film. On a donc
la radio est un avatar d'Homère. Et la radio est beaucoup plus forte quand elle vous prive d'un sens, n'est-ce pas, Yorgos Argimandris?
Oui, parce qu'il y a la voix qui fait porter tout.
On en vient maintenant, parce que vous avez bien connu son auteur et que vous avez une affection pour ce film, sur une œuvre de 1995 qui précède de 5 ans le film des Cohen. C'est Le regard d'Ulysse d'Angelopoulos, un cinéaste grec qui a vécu aux États-Unis pendant 35 ans, revient dans le nord de la Grèce. Il est à la recherche des bobines originales du premier film réalisé dans les Balkans avant que les guerres du début du XXe siècle ne commencent à déchirer la région. Et sa venue sème dans sa ville natale de Florina, c'est bien ça ?
C'est Florina, oui.
La difficulté, le désordre.
J'ai bien peur que tu sois venu pour rien.
Oui, ça m'en a tout l'air. Mais en dehors de la projection, j'aimerais bien rester ici pour des raisons personnelles. Si tu savais à quel point... Mais trop tard. Je dois poursuivre. J'ai tant rêvé qu'ici serait la fin du voyage. C'est étrange, non? N'est-ce pas toujours ainsi? Ma fin est mon commencement.
Sans doute. Qu'est-ce que je peux dire? Tu es parti depuis si longtemps, 35 ans selon. La distance, la nostalgie, t'as oublié. La réalité des Balkans est beaucoup plus dure que la réalité américaine. Ici, tu navigues dans l'obscurité.
Quelle ambiance sonore avec un crescendo, les cloches, le chant qui monte.
Théo Angelopoulos, il aimait beaucoup le nord de la Grèce et aussi le nord-ouest de la Grèce, parce qu'il y a toute cette authenticité, disons, des paysages, mais aussi de la vie des hommes. Et c'est surtout que le nord de la Grèce fait partie donc des Balkans, là où se déroule le film. Et c'est une vraie histoire en partie. C'est que vraiment, il y avait deux frères Manakis qui étaient les premiers qui ont utilisé un cinématographe en 1905 au nord de la Grèce, et qui ont fait peut-être 18 000 photos et beaucoup de films qui n'ont pas été développés, ou pas tous au moins, et qui se retrouvent dans les archives de plusieurs pays des Balkans. Donc on suit Ulysse, Harvey Keitel, c'est lui qui fait figure d'Ulysse dans le film, dans son périple à travers les Balkans.
À la recherche de films du début du XXe siècle, mais on est dans la guerre qui clôt le XXe siècle.
Exactement.
Puisque le XXe siècle finit à Sarajevo, commence à Sarajevo, et le cinéaste s'en va à Sarajevo. Et arrivé à Sarajevo, ne voyant que des ruines, suis-je à Sarajevo ?
Et ce qui préoccupe particulièrement Théo Angelopoulos, c'est la notion de l'histoire, comment l'histoire se répète. C'est-à-dire comment tout a commencé avec les guerres balkaniques au début du 20e siècle, et le siècle se clôt, comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, par la guerre de Sarajevo. Et c'est un peu le Thucydide, il introduit la notion de l'histoire dans la mythologie, dans ce cas, Théo Angelopoulos. C'est comme Thucydide qui disait que finalement l'histoire va se répéter parce que les hommes, l'homme fait toujours les mêmes erreurs.
Un mot juste pour finir, Yorgos Archimandritis. Le Yorgos adulte maintenant, peu après, la Grèce est menacée de sortie de l'Union européenne et la Grèce est porte d'entrée des migrants et des réfugiés. Et Ulysse est un migrant, à qui on doit la xenia, l'hospitalité.
La philoxénia, oui, tout à fait, oui.
Due aux étrangers. Et puis qui pratique la dissimulation de son identité, comme beaucoup de migrants, parce que si on dit qui on est, les esprits de la mort vous saisissent plus facilement.
Là, vous touchez à quelque chose de très sensible. C'est vrai que la notion de la migration est intimement liée avec le sort de tous ces Ulysses. Quand on voit, par exemple, les Syriens qui viennent en Grèce sur des radeaux presque improbables, on parle de l'odyssée des migrants, on parle de l'odyssée des réfugiés. Toujours, quand on aura un réfugié, pas un réfugié, un naufragé ou un homme à la mer, ce sera toujours Ulysse. On est tous des Ulysses de quelque part. On a tous un point de départ. On a tous une Ithaque qui nous attend quelque part, une destination. Peut-être que ce n'est pas la même que le point de départ, mais le voyage, c'est ça qui est important. C'est le voyage de la vie.
Je vous propose de finir, Yorgos Archimandridis, avec... dans une interview que vous avez faite de lui à Voix Nue France Culture, avec le monologue d'Ulysse selon Théo Angelopoulos.
Quand je reviendrai avec le nom et les habits d'un autre. Personne ne m'attendra. Et si tu ne me reconnais pas, et tu dis, c'est pas toi. Je te donnerai des signes. Et tu me croiras. Le citronnier dans ton jardin. La fenêtre par où entre la lune. Et puis des signes du corps. Des signes d'amour. Et quand nous monterons en tremblant dans notre chambre. Entre une étreinte et une autre. Entre un appel de mort et un autre. Je te raconterai le voyage toute la nuit et toute la nuit à venir. Entre une étreinte et une autre. Entre un cri d'amour et un autre. Toute l'aventure humaine. L'aventure qui ne finit jamais.
Cette émission en contrepoint de l'exposition Homère du Louvre-Lens, très beau catalogue pour ceux qui ne peuvent s'y rendre, a été préparé par Frédéric Martin, avec à la réalisation Audrey Ripouille, à qui on doit déjà un été avec Homère, l'émission de Sylvain Tesson sur France Inter, et à la technique Ludovic Asselot. Alors Calypso est très belle, mais Ulysse lui préfère Pénélope dans son île. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué l'amour?
Voilà, vous avez tout résumé, Jean. Bonjour, c'est exactement Mathieu. Le thème de l'émission. Bonjour à vous. Et Philippe Bruno est notre invité pour en parler, psychiatre et anthropologue.
Dans la tête au carré.